RFI.
7h30 à Paris, une heure de moins en temps universel. Merci d'écouter RFI. C'est l'heure du journal. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. À la une ce matin, la possibilité de négociations directes entre Kinshasa et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Chose que Kinshasa a pour le moment toujours refusée. Mais c'est le médiateur angolais qui annonce qu'un tel dialogue direct est désormais sur la table. Il pourrait avoir lieu dans les prochains jours. La présidence congolaise dit ce matin simplement prendre note. Dans le même temps, hier, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda était reçu par son homologue de l'Union européenne, Kigali, qui minimise son rôle dans la situation de l'Est congolais et qui souhaite échapper aux sanctions étudiées en ce moment par Bruxelles. Compte rendu avec notre correspondant dans un instant. Dans ce journal également, le Soudan du Sud qui dément la présence de soldats des forces spéciales ougandaises à Djouba. C'est pourtant ce qu'avait affirmé le chef de l'armée ougandaise. Vous entendrez aussi le président de l'Union des journalistes du Tchad. Il réagit à l'inculpation d'Olivier Munoji, le directeur de publication du journal Le Pays. Et puis notre dossier consacré ce matin à l'Assemblée Générale de la CAF, aujourd'hui au Caire, la Confédération Africaine de Football, qui se réunit pour réélire Patrice Motsepe à sa présidence. L'occasion de faire le bilan de son premier mandat. Les lignes rouges de la RDC sont-elles en train d'évoluer? En tout cas, la présidence congolaise dit prendre acte et attendre de voir comment les choses vont se dérouler. Après une rencontre avant-hier entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue de l'Angola, la présidence angolaise annonce des négociations directes entre Kinshasa et les rebelles du M23, ce groupe armé soutenu par le Rwanda, qui occupe aujourd'hui les villes de Goma et de Bukavu, ainsi que de larges parties des provinces du Nord et du Sud Kivu, des discussions directes que la RDC a pour le moment toujours refusées, le chef de l'État congolais estimant que les négociations devaient se faire directement avec son homologue rwandais. La situation de l'Est congolais, il en a été question ces derniers jours à Bruxelles, à l'initiative cette fois du Rwanda, déplacement du ministre rwandais des Affaires étrangères, venu défendre la position de Kigali, alors que les instances européennes, elles, planche en ce moment sur des sanctions ciblées contre des responsables rwandais. À Bruxelles, Pierre Benazé.
Lors de sa rencontre avec la chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, le ministre rwandais des Affaires étrangères a surtout tenu à affirmer que le conflit dans l'est du Congo n'avait pas été déclenché par le Rwanda. Olivier Nduhungirehe estime que le Rwanda, je cite, n'accepte pas de porter le fardeau des échecs de sécurité et de gouvernance de la RDC. À Joseph Sikela, le commissaire européen chargé des partenariats internationaux, il a soutenu que le Rwanda a été engagé en faveur de la paix dans l'espoir de voir décoller partenariat et développement économique. Kaya Kallas et Joseph Sikela lui ont tenu le même discours. Le Rwanda doit respecter l'intégrité territoriale de la RDC et s'engager dans des négociations. Les Européens espèrent qu'une solution politique pourra être enclenchée par une réunion ministérielle conjointe de la Communauté d'Afrique de l'Est et de la Communauté de développement d'Afrique australe. Les sanctions européennes à l'encontre d'une entité et de 9 personnalités rwandaises sont en suspens dans l'attente de cette réunion, pour l'instant repoussée. Ces tergiversations, l'Europe pourrait lui être reprochée lors du sommet UE-Afrique du Sud ce jeudi au Cap. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Et l'un des arguments du Rwanda et du M23, c'est qu'il viendrait en fait protéger les communautés Tutsi qui seraient marginalisées et en danger en République démocratique du Congo. Écoutez ce que répond à ce sujet le gouvernement de Kinshasa par la voix du ministre d'État chargé des infrastructures, Alexis Guissaro, lui-même Tutsi de la communauté Banyamulenge.
Nous avons ici l'affaire à un pyromane qui dit il y a le feu alors que le feu n'existe pas et qui vient après dire c'est moi le pompier pour éteindre ce feu parce que je viens pour protéger une minorité. Nous, comme communauté Banyamulenge ou de manière plus générale la communauté Tutsi, nous n'avons jamais demandé au Rwanda de venir ici pour protéger notre communauté. Bien au contraire, les différentes invasions que fait le Rwanda ne fait qu'exacerber les problèmes de cohabitation. Point n'est besoin de voir un État voisin venir devenir l'avocat d'une partie de notre population et intervenir militairement avec plus de milliers de soldats, soi-disant pour protéger une communauté. Non, l'agenda est tout autre. Qui protège la communauté Banyamulenge installée ici à Kinshasa? Est-ce le Rwanda? C'est la RDC qui les protège. Moi, et comme beaucoup d'autres Banyamulenge, des Tutsis, nous ne sommes pas d'accord avec le plan macabre du Rwanda sur notre pays. Nos problèmes, nous voulons les régler en interne. Nous n'avons pas besoin de l'intervention d'un autre pays pour venir nous protéger. C'est notre État qui nous protège, comme il protège toutes les autres communautés du pays.
Alexis Guissaro, ministre d'État chargé des infrastructures dans le gouvernement de RDC. Et c'est le même genre d'argument que celui du M23 et du Rwanda qui est avancé aussi par Thomas Lubanga. Il estime que les communautés de la province de l'Ituri, dont il est originaire, sont délaissées par Kinshasa. Le chef milicien Thomas Lubanga, qui a depuis Kampala, où il vit depuis qu'il a été libéré par la Cour pénale internationale après une condamnation pour des faits de crimes de guerre, annonçait la formation d'un nouveau mouvement politico-militaire. Précision et explication avec Patient Ligaudy.
Le mouvement s'appelle Convention pour la Révolution Populaire et dispose d'une branche armée, les Forces pour la Révolution Populaire. Les premières réunions formelles ont eu lieu en janvier et février à Kampala avec des représentants de groupes armés ituriens dont la FRPI qui fut l'un des plus grands mouvements armés de la province et le groupe Zaïre. Un protocole d'accord a été signé définissant les bases d'un mouvement politico-militaire. Le colonel Justin Lobo Zissi, un officier des FARDC, y occupe une place importante selon plusieurs sources. Le mouvement rejette tout lien avec la FCM23, contrairement aux accusations des experts de l'ONU qui évoquent des connexions indirectes. Selon ses membres, il s'agit d'une tentative de délégitimation auprès de la population congolaise. Mais le mouvement est-il déjà en action? Ses représentants refusent de répondre. Pourtant, l'armée congolaise assure que ses combattants sont responsables d'attaques dans certaines localités du territoire de Djougou, notamment Nyamamba et Datoulé, chefferie des Baema Banyuagi dans le territoire de Djougou. Leur objectif, selon Kinshasa, serait de progresser vers Tchomia, une agglomération située à 90 km de Bunia, sur les rives du lac Albert, qui marque la frontière avec l'Ouganda. Face à cette situation, l'armée congolaise assure qu'il s'agit d'un mouvement sans avenir, affirmant que plusieurs communautés locales ont déjà rejeté cette nouvelle rébellion.
Le patient Ligaudy, l'Ouganda donc, où réside Thomas Lubanga depuis quelques mois. Ouganda dont l'armée assure que ses forces spéciales sont déployées en ce moment à Djouba, au Soudan du Sud, pour soutenir le gouvernement du président Salva Kiir. Sauf que le gouvernement sud-soudanais dément. On essaie d'y voir plus clair avec Christina Okello.
Le porte-parole de l'armée ougandaise, Félix Kulaïdjé, reste évasif sur ce déploiement. Interrogé sur le démenti du gouvernement sud-soudanais, il esquive la question.
Est-ce que je suis censé commencer à rivaliser avec le gouvernement du Soudan du Sud?
Félix Kulaïdjé refuse ensuite de préciser si les troupes ougandaises ont été envoyées ailleurs qu'à Djouba.
Je ne sais pas et je n'ai aucun commentaire à faire sur ce sujet.
Ce flou alimente les interrogations sur les véritables motivations de Kampala. Officiellement, l'armée ougandaise affirme être intervenue pour stabiliser la situation à Djouba et protéger ses ressortissants. Mais pour les observateurs, cette annonce met les autorités sud-soudanaises dans l'embarras, notamment à l'approche de l'élection présidentielle de 2026. Le porte-parole du gouvernement a d'ailleurs minimisé la situation, affirmant dans la presse locale qu'il n'y a aucune tension à Djouba. Pourtant, hier matin, Muizi Kainerugaba, chef des forces armées ougandaises et fils du président Yoweri Museveni, affirmer que toute action contre Salva Kiir serait perçue comme une déclaration de guerre par l'Ouganda. Kampala n'en est pas à sa première intervention au Soudan du Sud. Déjà en 2013 et 2016, l'armée ougandaise était intervenue pour soutenir Salva Kiir face à Riek Machar. Cette nouvelle implication, jugée risquée par des experts, pourrait aggraver la crise actuelle, alors que l'ONU redoute un effondrement de l'accord de paix de 2018, conclu après 5 ans de guerre civile et près de 400 000 morts.
Et Christina Okello, RFI, 7h38 à N'Djamena, au Tchad, où le journaliste Olivier Monodji est aux arrêts depuis une semaine. Officiellement désormais en détention après avoir été inculpé, Olivier Monodji est directeur de publication de l'hebdomadaire Le Pays et par ailleurs correspondant de RFI au Tchad. C'est pour des écrits dans son journal qu'il est poursuivi avec 3 autres hommes pour des faits présumés d'intelligence avec une puissance étrangère, d'atteinte à la sûreté de l'État ou encore de complot. Il risque jusqu'à 30 ans de prison. Abbas Mahamoud est le président de l'Union des journalistes tchadiens. Il a assisté aux auditions d'Olivier Monodji et de ses co-accusés.
Pour nous, le procureur de la République, il a mal qualifié le fait. Selon ce que nous avons écouté, ils ont publié des articles dans différents journaux. L'un a traduit seulement un article qu'il a publié dans un journal. On reproche à Olivier d'avoir publié un article, un publié reportage dans son journal et d'avoir partagé des informations qui concernent l'économie du pays, des informations accessibles à tout le monde. Jusqu'à maintenant, on n'a pas montré la sensibilité ou la gravité des informations partagées. Donc, ce que nous avons vu, c'est un publié reportage. Donc, même s'il y a un crime, même s'il y a un délit, c'est un délit de presse. Et quand c'est un délit de presse, c'est dépénalisé. Normalement, il ne devrait pas rester en prison. Il devrait avoir, n'est-ce pas, la possibilité de comparaître librement devant le juge. C'est pourquoi, pour l'UJT, c'est une détention arbitraire. Et il faut qu'on respecte les procédures pénales et les dispositions de la loi en cette situation.
Abbas Mahmoud, le président de l'Union des journalistes tchadiens, joint par Esdras Ndikoumana. Dans l'actualité des pays africains ce matin également, le Mozambique, où le principal opposant Venancio Mondlane a été placé hier sous contrôle judiciaire, candidat malheureux de la dernière élection présidentielle. Il ne peut plus désormais quitter sa résidence plus de 5 jours d'affilée. Il assure que cela n'entravera pas ses activités politiques. Et puis avant de retrouver Andréane Mellard pour la suite des RFI Matin dans 3 minutes, notre dossier aujourd'hui s'intéresse à la CAF, la Confédération africaine de football, qui tient son assemblée générale aujourd'hui au Caire en Égypte. Pas mal d'enjeux, l'entrée ou non de Samuel Eto'o au comité exécutif, le renouvellement de 6 postes africains au conseil de la FIFA, la Fédération mondiale du football, et la réélection de Patrice Motsepe à la présidence de la CAF. Pas de suspense puisqu'il est le seul candidat en lice, mais c'est tout de même l'occasion de faire le bilan de son premier mandat et on le fait avec Olivier Pron.
En mars 2021, à Rabat, Patrice Motsepe devient président de la CAF à la surprise générale, ou presque. Jusque-là, le premier milliardaire noir d'Afrique du Sud, 9e fortune du continent aujourd'hui, n'était connu que des initiés. En tant que président du club de Pretoria, les Mamelodi Sundowns, propulsé sur le devant de la scène footballistique à l'époque pour, en homme d'affaires qu'il est, remplir les caisses d'une CAF aux abois financièrement. 4 ans plus tard, c'est en partie chose faite. Le succès notamment médiatique, comme jamais, de la dernière CAN en Côte d'Ivoire est passé par là. La plus belle des Coupes d'Afrique des Nations, comme on l'appelle, jusqu'à la prochaine, a été diffusée partout dans le monde. Succès aussi la création d'un championnat scolaire et d'une Super League fermée en 2023 qui promettait beaucoup aux clubs participants. Problème, elle n'a connu qu'une seule édition. Pour le reste, il faut nuancer vraiment ce bilan de Patrice Motsepe, a rappelé les reports incessants des différents CHAN, les difficultés pour trouver un pays hôte à la CAN féminine. Enfin, les dates de la CAN, compétition reine, sans cesse chamboulées au gré des désidérata de l'UEFA et surtout de la FIFA, une instance mondiale dont certains, au sein même de la CAF à présent, dénoncent la mainmise sur les décisions importantes et la gouvernance.
Olivier Pron, et à propos de cette ingérence de la FIFA dans les affaires du football africain et de la CAF en particulier, pour Philippe Doucet, qui est consultant dans l'émission Radio Foot International, elle est apparue très clairement, cette ingérence, il y a 4 ans, au moment de l'élection de Patrice Motsepe, et depuis, elle n'a cessé de croître.
Monsieur Motsepe a été installé à la tête de la CAF par la FIFA, et à la suite d'un accord où on a dissuadé tous les autres candidats. Donc ça a été quelque chose d'extrêmement clair, et un bis repetita, puisque 4 ans plus tard, à nouveau, globalement, tout le monde s'est accordé par avance pour qu'il n'y ait pas de contradicteur pour Patrice Motsepe. Je pense que la FIFA ne voulait pas prendre le moindre risque que Motsepe ne soit pas élu. Du coup, on a à nouveau une élection par main levée. Bon, c'est pas la meilleure version démocratique. Et surtout, ça dénote que la FIFA domine toujours très nettement la CAF. Il y a des problèmes financiers à la CAF. Du coup, la FIFA fait ce qu'elle veut avec. Et la démonstration, c'est évidemment la date de la prochaine CAN qu'on a casée quand on a pu au Maroc. Parce que, en gros, les dates étaient prises par la FIFA, par l'UEFA. On va la mettre là à Noël parce qu'on sait plus où la mettre, quoi.
Philippe Doucet, l'un des consultants de l'émission Radio Foot International. Et cette Assemblée Générale de la CAF, c'est tout à l'heure au Caire à partir de 8h, temps universel, dans un peu plus d'une heure donc, puisqu'il est désormais 6h44, TU, et vous êtes avec Andréane Mellard pour la suite des RFI Matin.